Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons trois séries de sept. Il y a sept sceaux qui scellent un livre dans la main de Jésus, l'agneau. Lorsque les sceaux sont rompus, l'apôtre Jean voit en vision les persécutions de l'Église aux mains des empereurs romains. Et la demande à Dieu de la part des chrétiens tués dans ces persécutions de venger leur sang. Le septième sceau révèle sept trompettes. Lorsque chaque trompette est sonnée, un malheur frappe l'Empire romain pour l'appeler à la repentance. Mais les ennemis de l'Église s'endurcissent au lieu de se repentir. Ainsi, la septième trompette va révéler sept coupes remplies de la colère de Dieu à déverser sur l'Empire méchant. Avant l'ouverture du septième sceau, Jean avait vu des visions pour rassurer les chrétiens que Dieu ferait bien la distinction entre les siens et les persécuteurs quand ils se mettaient à punir. Avant la sonnerie de la septième trompette, il voit des visions qui soulignent cette idée. Dieu règne, il veille sur son Église et il promet la conserver. Elle subira néanmoins la persécution de la part des païens et doit rester fidèle dans les épreuves les plus douloureuses. Nous avons considéré la vision du temple qui a été mesurée pour marquer sa protection, mais qui était en même temps foulée aux pieds, ce qui signifie l'oppression qu'elle devait subir. Aujourd'hui, nous étudierons la vision des deux témoins. Le Seigneur dit au chapitre 11, à partir du verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il mourra. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. À cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix leur disant, « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Les deux témoins dans ce passage ne sont pas des personnages historiques, mais une personnification de l'Église qui doit toujours prêcher la parole du Seigneur. Le fait qu'ils sont deux montre qu'il s'agit d'un témoignage confirmé. L'attestation de deux témoins étant nécessaire pour établir une vérité. Matthieu 18, verset 16 et Jean 8, verset 17. Que ces deux témoins soient vêtus de sacs, signe de deuil, signifie que le témoignage de l'Église se fera dans l'épreuve. Les témoins rencontrent de l'opposition de la part des ennemis, chapitre 11, verset 5, mais ces ennemis ne peuvent pas les empêcher d'accomplir leur mission. Ils ont le pouvoir de détruire leurs ennemis par du feu qui sort de leur bouche. On ne doit pas supposer que des chrétiens de l'époque aient accompli ce miracle. C'est une image pour montrer que rien ne peut arrêter l'Église, quoi qu'il arrive. Elle rappelle le récit où par deux fois le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, fit descendre du feu du ciel pour tuer des soldats envoyés contre lui par le roi Agab. 2 Rois 1, versets 10 à 12. Les témoins ont d'autres pouvoirs qui font penser à Élie et aussi à Moïse. Ils empêchent la pluie de tomber, comme Élie l'a fait en 1 Rois 17, et comme Moïse, ils changent l'eau en sang et envoient les plaies. 11, verset 6. Les chrétiens, en effet, faisaient venir des maux sur la terre dans ce sens. C'était à cause d'eux et de leurs prières pour la délivrance de l'oppresseur que Dieu châtiait l'Empire. Quand les témoins auraient achevé leur mission, la bête qui sort de l'abîme leur ferait la guerre et les tuerait. Nous verrons la bête en plus grand détail dans les chapitres suivants, mais pour l'instant il suffit de dire tout simplement qu'il s'agit de l'Empire romain. Quand elle tue les témoins, il semble qu'elle a vaincu l'Église. Les hommes se réjouissent de la mort de ces témoins qui les avaient « tourmentés » entre guillemets, en quelque sorte par leur prédication. Tout cela a lieu dans la grande ville, c'est-à-dire Rome, qui est appelée par des noms de trois autres endroits méchants. On pouvait l'appeler Sodome à cause de sa corruption morale et sa débauche. On pouvait l'appeler Égypte parce que son empereur, comme le pharaon, opprimait le peuple de Dieu. Et on pouvait l'appeler Jérusalem, là où leur Seigneur a été crucifié, puisque Rome, elle aussi, met à mort les envoyés de Dieu. D'ailleurs, c'est par l'autorité de Rome dans la personne de Ponce Pilate que Jésus fut crucifié. Après 3 jours et demi, les 2 témoins furent ressuscités. Quand il semblait que Rome avait pu éliminer l'Église, celle-ci se releva, à l'étonnement de tous. Les persécutions les plus violentes n'ont jamais pu, malgré les apparences, détruire l'Église de Dieu. La crainte s'empara des ennemis de l'Église qui voyaient dans sa survie la main de Dieu. Les témoins sont enlevés au ciel, tout comme leur maître qui avait été glorifié de la même manière. Ceci semble évoquer la récompense céleste qui attend l'Église après avoir fidèlement accompli son devoir au milieu de beaucoup d'épreuves. 1 Thessaloniciens 4, versets 17 et 18 dit aux chrétiens « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » À cause de son opposition contre les 2 témoins dans la vision, la ville est secouée par un tremblement de terre, et beaucoup de ses habitants meurent. Non seulement Dieu relève son Église, mais il punit ceux qui la maltraitent. Avant donc de déverser sur Rome les coupes de sa colère, Dieu rassure son Église de nouveau qu'il veille sur elle, malgré ses souffrances, qu'elle doit continuer fidèlement à prêcher l'Évangile, et qu'elle sera victorieuse quoi qu'il arrive. Quand la 7e trompette sonne, celle qui doit révéler les 7 coupes par lesquelles la colère de Dieu contre Rome devait s'accomplir, des voix dans le ciel se font entendre. Elles célèbrent par anticipation la victoire finale de Dieu sur son ennemi. Avec cette sonnerie, le jugement peut être considéré comme une chose certaine. Même si les événements que la trompette déchaîne n'ont pas encore été montrés dans le livre, le langage employé dans ces versets pourrait laisser croire que c'est en ce moment que le règne divin commence. Nous lisons que « il y eut dans le ciel des voix fortes qui dirent « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui es, qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Plusieurs passages bibliques nous poussent cependant à comprendre ce langage autrement. Il est très clair que Dieu règne sur les nations depuis toujours. Psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. » Je domine sur la terre. Psaume 145, verset 13 dit « Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Daniel 2, verset 21 dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » D'autres passages affirment la même vérité. Il est aussi clair que depuis sa résurrection et son ascension, le Christ exerce l'autorité sur les nations. L'Apocalypse l'a déjà déclaré le prince des rois de la terre, depuis le premier chapitre. Selon Éphésiens 1, versets 20 et 21, Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. L'événement célébré par les voix du ciel ne marque le commencement ni du règne de Dieu, qui n'a pas de commencement, ni du règne de Jésus, qui fut établi à la fin de son ministère sur la terre. Mais quand les actions des méchants semblent mettre en question le règne de Dieu, et que finalement Dieu agit pour les arrêter et les punir, son règne est comme réaffirmé, démontré à nouveau pour tous. Un exemple de ce langage dans l'Ancien Testament se trouve au verset 21 d'Abdias, où Dieu promet venger son peuple sur les Édomites. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est aussi de cette manière que parle la voix du ciel en Apocalypse 12, verset 10. Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. On parle d'une démonstration manifeste de son règne, et non pas d'un commencement chronologique. Pourquoi Dieu permet-il que l'injustice existe? D'abord, on peut dire que Dieu est patient, même envers les méchants, et il leur donne parfois du temps pour se repentir. Parfois, il permet les souffrances et les tentations afin d'éprouver ses serviteurs. Mais il y a aussi des situations où Dieu agit à la vue de tous pour exécuter la justice et punir les rebelles, comme il l'a fait à l'égard de l'Empire romain. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu de quelle manière il doit exercer son règne, mais reconnaissons que c'est bien lui qui règne, et quelle que soit l'apparence des circonstances du moment, c'est bien Jésus qui est le roi des rois.